À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « L'aventure spirituelle », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Voici, pour poursuivre notre exploration de la vie spirituelle, de ce monde très riche qu'on appelle la vie spirituelle. Il est frustrant de parler à la radio. On ne sait pas trop à qui l'on parle. Vous êtes là en train d'écouter, je ne vous connais pas, je ne sais pas quels sont vos besoins, quelles sont vos questions. Je suis incapable de saisir vos réactions. Voilà qui est très frustrant pour moi. Je voudrais tant que ce que je vous dis puisse vous rejoindre, vous aider à mieux vivre, éclairer votre vécu. Je vais faire mon possible. J'imagine qu'en partageant avec vous des choses qui me tiennent à cœur, je risque de vous intéresser. Ces choses me sont précieuses. La vie spirituelle est précieuse. Notre vie spirituelle, c'est un aspect de notre vie unique, notre unique vie. Un aspect qui concerne notre relation à Dieu. En régime chrétien, dans Galates 5, 25, Saint Paul nous dit que, étant donné que l'Esprit habite en nous, fonctionnons, agissons selon l'Esprit. Notre vie spirituelle, c'est notre vie dans l'Esprit, notre vie animée par l'Esprit. Ce qu'il y a d'original dans la vie spirituelle, c'est pas tellement original, parce que c'est toute notre vie qui est marquée. De ce même indice, notre vie spirituelle est en devenir, comme notre vie tout court. Notre vie spirituelle, c'est une histoire. Quand on explore notre vie spirituelle, il est intéressant de reconnaître les éléments qui permettent ce devenir. Tout n'est pas donné au début. Notre vie spirituelle, elle est comme en puissance. C'est toute pleine de potentialités. Il faut la développer, il faut la nourrir. La comparaison de la voiture automobile est intéressante aussi, nous fait comprendre. Nous avons en nous des énergies plus fortes que 1000 soleils, disait Martin Gray. Ces énergies demandent à être orientées. C'est pour ça que le thème du discernement est tellement important dans la vie spirituelle. Bon, tout le monde fait du discernement, ça c'est entendu. Discerner, c'est d'essayer de voir clair dans des choses qui ne le sont pas, dans des choses qui sont mêlées. Il n'y a pas uniquement dans la vie spirituelle qu'il faut faire du discernement. Quand nous allons voter pour des élections, nous avons à discerner quel est le meilleur parti, quelle est la meilleure personne pour conduire la destinée de notre ville, notre nouvelle ville. Le discernement a pour fonction d'orienter, d'ordonner les énergies spirituelles. Le discernement agit un peu comme le volant d'une voiture automobile, comme la direction par rapport au moteur. Un moteur sans direction, par exemple quand quelqu'un s'endort au volant ou quand il est en boisson et qu'il n'est pas capable de diriger sa voiture, c'est désastreux. C'est là que se produisent des accidents. La charité sans discernement est aussi désastreuse. La charité, c'est une bonne chose, il n'y a pas de doute. Mais si elle est mal orientée, elle peut faire précisément du mal. Elle peut produire l'inverse de ce qu'on veut lui faire produire. On peut faire du mal avec du bien, avec des bonnes intentions. C'est pourquoi il est important de développer le discernement spirituel, pour éviter de faire des folies religieuses. Et les folies religieuses sont les pires folies parce que ça implique Dieu. On en met beaucoup sur le dos du bon Dieu, pauvre bon Dieu, surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, on s'approprie les choses pour soi, mais quand ça va mal, c'est la faute du bon Dieu. On en met aussi beaucoup sur le dos du diable, pauvre diable. Le discernement spirituel nous apprend à assumer nos responsabilités, à voir clair dans ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Il faut donc développer le discernement spirituel, mais non seulement pour éviter les folies religieuses, non seulement pour éviter d'être dans l'illusion, pour ne pas se laisser charrier par toutes les influences qui sollicitent notre liberté, mais surtout, nous avons à développer le discernement spirituel pour trouver la volonté du bon Dieu. C'est ça qui est important. Pour orienter toute notre vie vers lui, avec lui. Et c'est le meilleur. Vous vous souvenez quand nous étions jeunes à l'école, il y a plusieurs années, on nous faisait offrir notre journée au Seigneur au départ. Mais une fois cette offrande faite, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On pouvait faire à sa tête. Le père Thomas Green faisait la distinction entre le fait de travailler pour Dieu, to work for God, c'est une chose, et faire le travail de Dieu, ça c'est autre chose. Saint Ignace, pour prendre cet exemple, quand il s'est converti, il a décidé de travailler pour Dieu. C'est comme s'il disait à Dieu, « Regarde, Seigneur, j'arrive. Ton règne va s'établir, ça prendra pas de temps. Je suis là pour t'aider. » Et là, il s'est mis à faire toutes sortes de folies religieuses parce qu'il n'était pas initié au discernement, par bonnes intentions, parce qu'il voulait travailler pour Dieu. Mais ce n'était certainement pas le travail de Dieu qu'il faisait là-dedans. Il y a une différence entre décider de travailler pour Dieu et de faire le travail de Dieu. On peut vouloir travailler pour Dieu, offrir sa journée au Seigneur le matin et faire à sa tête toute la journée, ne sachant pas ce que le Seigneur attend de nous. Il y a vraiment une grosse différence entre travailler pour Dieu et faire le travail de Dieu. Pour faire le travail de Dieu, il s'agit de découvrir précisément sa volonté, de découvrir sa complicité avec notre action, son accord avec notre action. La question qui se pose à ce point, c'est comment connaître ce que le Seigneur attend de nous? C'est la grosse question du discernement spirituel. Comment discerner sa volonté? Évidemment, répondre à cette question suppose que l'on ait des idées claires sur ce que c'est que la volonté de Dieu. Au point de départ, on peut dire que le Seigneur n'a pas décidé toute chose à notre place par avance. Et nous ne serions que des exécutants. Ça voudrait dire que nous serions des marionnettes manipulées par Dieu et que notre rôle serait seulement de découvrir, un peu comme dans les mots mystères, dans le journal, découvrir le mot caché. Cette façon de voir les choses nierait tout simplement notre liberté. Le Seigneur nous a créés libres et capables de collaborer avec lui. La volonté de Dieu, nous la connaissons en travaillant avec la complicité de l'Esprit, à travers le concret de notre quotidien. Nous trouvons cette volonté à travers notre recherche, en utilisant notre intelligence, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, une intelligence que l'on développe avec le temps et une intelligence qui est éclairée par l'action de l'Esprit en nous. Il n'y a pas de magie dans le discernement spirituel. C'est un effort de recherche que l'on pourrait dire commune entre moi et l'Esprit qui habite en moi. Je vais utiliser mon intelligence avec la complicité de l'Esprit. Et plus mon intelligence est exercée, plus le discernement est facile, et plus ma complicité avec l'Esprit est développée, plus le discernement va être facile. Il existe des critères objectifs de la volonté du bon Dieu. Le Seigneur s'est révélé à travers l'histoire, il se révèle à travers la nature, on peut connaître les choses de Dieu. Il s'est révélé en particulier à travers la tradition judéo-chrétienne, à travers la Bible. La Bible, c'est l'héritage que nos ancêtres dans la foi nous ont légué, l'héritage de ce qu'ils ont découvert des intentions de Dieu. C'est très riche, hein, les commandements de Dieu. Ça, c'est toute la sagesse de foi de nos ancêtres qui s'exprime à travers ces vieux textes qui sont toujours actuels pour nous. Évidemment aussi, si vous voulez savoir la volonté de Dieu, le critère le plus précieux, le plus riche, c'est Jésus, qui précisément est la parole de Dieu et le Verbe de Dieu, qui nous dit Dieu. Pas seulement par ses enseignements, mais par son vécu, par son être même. Il existe donc des critères objectifs de la volonté du bon Dieu. Et vous avez par la suite l'Église. Jeanne d'Arc disait que l'Église, c'est Jésus qui est continué. Hein? Mais d'avis que l'Église et Jésus, c'est la même chose. C'est Bossuet qui disait ça. L'Église, c'est Jésus-Christ continué, répandu. L'Église, dans son mystère même, poursuit cette révélation de Dieu pour nous à travers son enseignement. Il y a aussi les signes des temps qui peuvent être pour nous des indications du bon plaisir de Dieu sur notre vie. Il existe donc une foule de critères objectifs auxquels on peut se référer. Dans l'action catholique, autrefois, mais encore aujourd'hui, quand on voulait discerner, on prenait une situation de vie, puis on se référait à la Bible, à l'Évangile, on prenait un texte évangélique qui nous éclairait, hein, qui éclairait notre agir dans cette situation de vie. Mais il existe des situations, il existe des décisions qui sont plus précises, et qui demande des critères encore plus délicats, plus précis que les critères objectifs dont on vient de parler. Prenez par exemple, c'est pas écrit dans le ciel que moi, je doive consacrer ma vie dans une communauté religieuse. Il n'est pas écrit nulle part dans le ciel ou dans l'Écriture que moi, je dois être jésuite, par exemple, ou que moi, je doive partir en mission. Quand ces questions sont plus précises, plus concrètes, il faut se référer à des critères plus subtils. Et ce sont des critères subjectifs. Je dois me référer à ce qui se passe au-dedans de moi et lire les signes de l'esprit quand ils me sont donnés dans mon expérience spirituelle intime. Les Japonais ont une expression pour parler de ce qui se passe en dedans de nous-mêmes. Ils appellent ça le kimochi. Le kimochi, c'est l'ensemble des sentiments, des émotions, tout ce qui se bouge en dedans de nous-mêmes. C'est très intéressant. J'appelle ça la météorologie intérieure. Il y a des fois, notre intérieur est lumineux, ça va bien, on se sent bien. Il y a des fois, là, c'est plus bousculé, c'est plus tempétueux, si on peut dire. Il y a des fois, c'est calme, un calme plat, ou c'est nuageux, il n'y a rien qui se passe trop. Le kimochi, l'ensemble de mes sentiments, constitue une sorte de langage intérieur qu'il faut apprendre à lire, à décoder. Vous savez, on le fait spontanément au niveau de notre santé physique. Par exemple, j'ai mal à la tête ou je me sens mal en dedans. Quand on a vécu assez longtemps avec soi, on arrive à interpréter ces malaises intérieurs. Je sais exactement pourquoi j'ai mal à la tête. Parce que j'ai trop mangé ou j'ai fait tel excès de boissons, de nourriture, je sais pas trop. Mais on arrive à lire ces signes intérieurs que sont les malaises physiques que l'on ressent. Il y a des malaises psychologiques aussi. Je peux me sentir mal psychologiquement parce que je suis en chicane avec quelqu'un. Quelqu'un m'a dit que des choses réelles pour moi, ça m'a tout troublé. Ce trouble-là, c'est un signe de quelque chose au niveau de ma psychologie. La même chose du point de vue moral. Je peux compter un mensonge ou me contredire moralement, faire quelque chose qui n'est pas bon, puis je le fais pareil. Et je me sens mal, ce qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité représente une sorte de signal intérieur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans la vie spirituelle, la même chose se passe. Il existe des signes, des états d'âme, des mouvements intérieurs qui nous parlent de l'état de notre vie spirituelle. Saint Ignace parlera de la consolation et de la désolation. Le rôle du discernement spirituel, c'est précisément d'apprendre à lire ce langage intérieur. C'est complexe parce que tout est mêlé dans mon kimochi, à l'intérieur de ma boîte de résonance, là, de ce que je perçois à l'intérieur de moi. Et souvent, je me plais à comparer mon kimochi à une assiette à soupe. Vous vous souvenez, encore là, quand on était jeune, nos mères nous servaient de la soupe avec dedans des pâtes en forme de lettres, des A, des B, des C, etc. Puis on s'amusait à tirer sur le bord de son assiette ces lettres pour faire des mots, puis des phrases, etc. On s'amusait comme ça. Notre vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un peu comme une assiette à soupe. On ne sait jamais trop ce qu'il y a dans la soupe. Souvent, là, c'est toujours très bon, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là. C'est la même chose à l'intérieur de nous. Il y a une foule de choses qui se passent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le rôle du discernement, c'est de départager, de faire le tri dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour résumer, il y a trois étapes dans le discernement spirituel. La première étape, tout d'abord, et c'est évident, il s'agit de percevoir qu'il y a des choses qui bougent en dedans de moi-même. Un jeune enfant n'a pas d'intériorité. Il n'est pas conscient qu'il se passe des choses. J'évoquais dans une autre rencontre là, le jeune garçon qui découvrait son intériorité, son âge de raison, et qui courait vers sa mère pour lui dire « Maman, maman, il y a quelque chose qui parle en dedans, ça parle en dedans de moi-même. » À un moment donné, dans la croissance d'une personne, on découvre que ça parle en dedans de soi-même. Mais ça parle plusieurs langues, ça parle de plusieurs endroits. La première chose à découvrir dans l'aventure du discernement spirituel, c'est de découvrir, se rendre présent à soi-même, intérieurement. Savoir qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des personnes qui sont trop attirées, attachées, occupées par les choses extérieures. Il y a des personnes qui ne sont pas présentes à ce qui se passe en dedans de soi-même. Premier temps, prendre conscience qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de moi. Deuxièmement, essayer, et c'est là tout l'art du discernement, de distinguer d'où viennent ces choses qui se passent, ces mouvements intérieurs. Quelle est l'origine de ce qui se bouge en dedans de moi-même? Je peux me sentir mal, ça peut être physique. Par exemple, quand il y a des dépressions barométriques, quand le baromètre fait des folies, c'est normal de se sentir mal. Et si vous avez enseigné, déjà à l'école, la maîtresse disait, en voyant les étudiants qui se tortillaient sur leurs chaises comme des vers à soie, il va y avoir une tempête. Et elle avait raison, c'est physique. On a 15 livres de pression au pouce carré sur le corps, ordinairement. Alors, quand la pression varie, alors qu'il y a un front barométrique qui passe, comme on dit, mais les cellules sont obligées de se réajuster soit à trop de pression ou à un manque de pression. Et c'est ça, on se sent mal quand arrive une tempête. C'est physique. Alors, l'origine est physique. Ma mère était très sensible à la pression barométrique. Elle se sentait mal. Elle voulait aller voir son psychologue. Je lui dis, va voir le psychologue. Achète-toi un baromètre, ça coûte moins cher. Alors, la sagesse du discernement, c'est de saisir que ça, c'est physique, alors que d'autres choses n'est pas physique. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire ses comptes, puis ses chiffres n'arrivent pas. On se sent mal. C'est pas physique, c'est intellectuel. On est devant un problème. Il y a quelque chose qui marche pas dans notre comptabilité et on se sent mal. Alors là, je peux dire, ça, c'est intellectuel. Ou la culpabilité, j'ai fait quelque chose qui était pas bon, je me sens mal en dedans. C'est pas physique, c'est moral. Il existe la même chose pour le plan spirituel. Ignace, quand il faisait un discernement, à un moment donné, s'est senti honteux de se présenter devant le Seigneur. Et c'était nettement dans sa relation à Dieu que le malaise se situait. Ce que je viens de dire là, ça vaut pour les malaises et ça vaut aussi pour les consolations, savoir identifier l'origine. Et, en fin de compte, troisièmement, non seulement saisir qu'il se passe des choses en dedans de soi-même, non seulement identifier d'où est-ce que ça vient, l'origine de ces mouvements intérieurs, mais troisièmement, voir la signification. Je me sens mal, et ça, c'est dans ma relation à Dieu de quoi ça dépend. Ça peut dépendre que j'exerce pas mes énergies spirituelles. Je suis en train de déprimer spirituellement. Il est normal, quand on se nourrit pas spirituellement, de se sentir faible. Alors, la troisième étape, lire la signification, alors que j'ai identifié l'origine de ce que je perçois dans les mouvements intérieurs. Un dernier mot pour dire que le facteur temps est très important. C'est un peu comme l'apprentissage d'une langue à l'école ou d'une science. Ça se fait lentement à travers le temps. On n'y arrive pas de premier coup. Ça s'approfondit avec le temps, en particulier avec la familiarité avec Dieu, avec la fréquentation avec Dieu. Plus on se connaît, plus c'est facile de discerner l'action de Dieu dans notre vie. On se connaît. Vous vous souvenez du texte de l'Évangile, du bon pasteur et du faux pasteur. Le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix, elles me reconnaissent. Elles n'écouteront pas la voix du faux pasteur, celui qui arrive et qui n'est pas connu. On peut faire l'expérience très simplement. Si vous avez un animal domestique à la maison, un chien, un chat, le chien va vous écouter si vous êtes son maître ou sa maîtresse. Mais allez voir le chien du voisin ou un chien que vous voyez sur la rue, puis essayez de lui faire toutes sortes de trucs, vous ne serez pas capable. Et vous ne vous connaissez pas. Plus on connaît le Seigneur, plus on est familier avec le Seigneur, plus ça devient facile de découvrir ses intentions, comme des vieux amis qui savent très bien ce que l'autre fait en fin de semaine. Ce sont des amis, ils se connaissent. Ou comme la femme qui est mariée depuis 40 ans, disait le père Green, elle n'a aucune difficulté à choisir la cravate de son mari lors de son anniversaire. Elle connaît ses goûts, ça fait 40 ans qu'elle vit avec lui.
Vous venez d'entendre « Sous l'olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.